Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 270e numéro de Mélomanie. Les vacances de printemps sont terminées et l'activité reprend tout doucement dans les salles de concert. Il est vrai que certaines saisons musicales sont d'ores et déjà closes, c'est le cas par exemple de celle des Arts Renaissants. D'autres touchent à leur fin puisque se profilent début mai les derniers rendez-vous des saisons Toulouse Guitare et des Clés de Saint-Pierre. Cette semaine tout de même, il y a quelques événements à vous annoncer et pour ce faire, je peux encore une fois compter sur l'aide du fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Présent aussi dans cette émission, notre invité d'honneur, le compositeur William Maurer, fondateur de l'ensemble qui porte son nom. L'ensemble William Maurer se produit en concert le samedi 27 avril à 20h à l'église Saint-Pierre des Chartreux de Toulouse. Notre invité va vous présenter le programme et la formation qu'il a fondée en seconde partie de ce numéro. Dans les médias, nous allons nous replonger dans l'actualité musicale récente avec Serge Chauzy. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge et bienvenue William Maurer que nous accueillons pour la première fois à Mélomanie. Nous allons d'abord revenir sur le concert qu'ont donné l'Orchestre National du Capitole et le violoniste Frank-Peter Zimmermann. C'était vendredi dernier à la Halle aux Grains sous la direction de Frank Berman. Le violoniste était allemand, le chef était allemand et le programme était allemand. Il avait même été sous-titré « Brahms en majesté » puisque deux œuvres du grand compositeur germanique ont été jouées ce soir-là. Nous avons eu beaucoup de bonheur à y retrouver ce violoniste Frank-Peter Zimmermann, 9 ans après sa dernière venue à Toulouse. C'était en 2015, Serge.
Oui, exactement. Et puis, un grand plaisir de retrouver, mais lui, on l'entend très souvent à Toulouse, le grand chef d'orchestre Frank Berman, qui est un grand habitué de la fosse de l'Opéra National du Capitole. Il a dirigé des tas d'opéras, les plus grands, les plus solennels, en quelque sorte. Et donc, on est très heureux de retrouver ces deux musiciens qui s'entendent parfaitement. On a eu vraiment un accord parfait entre les deux, avec donc deux œuvres de Brahms, presque. Enfin, il y en a une, oui. C'est un peu plus que du Brahms.
Une petite nuance tout de même.
Alors, la première œuvre, c'était donc son unique concerto pour violon, et qui vraiment a bénéficié de l'ampleur sonore, du sens du phrasé, des nuances, un legato extraordinaire du violoniste de Frank-Peter Zimmermann, avec cette espèce d'éloquence généreuse qui émane de son jeu. En particulier dans le premier mouvement, moi j'ai particulièrement apprécié la cadence qu'il a jouée avec une intensité, des contrastes dynamiques et expressifs.
C'était très impressionnant.
Impressionnant, vraiment impressionnant. Et puis dans le deuxième mouvement, il commence par un solo de hautbois. Donc ce sont les vents qui commencent et là, je voudrais quand même rappeler que le grand virtuose Pablo de Sarasate de l'époque avait refusé de jouer ce concerto parce qu'il considérait absurde, je le cite, la longueur du thème confié au hautbois dans un concerto pour violon.
Oui, il ne veut pas qu'on lui vole la vedette.
Ah non, exactement. Alors bon, là c'était une belle méditation que ce mouvement et puis cette conclusion douce et sereine, presque en état d'apesanteur qui s'enchaîne avec le thème rebondissant du final, soutenu de manière festive et joyeuse par l'orchestre. Donc le public a manifesté vraiment un grand enthousiasme à la suite.
En plus, c'était plein, une fois de plus, c'était
absolument
archi complet. Il n'y avait plus de place d'ailleurs plusieurs jours avant le concert. Et quand tout le monde se met debout dans la halle aux grains, évidemment, ça fait du bruit.
Ah oui, ça impressionne. Oui, absolument. Donc l'accueil a été tellement chaleureux que le violoniste a joué non pas un, mais deux bis, avec tout d'abord, alors, une transcription abracadabrantesque, on peut dire, du Lied, fameux Lied de Schubert, Der König, le roi des zones, par un compositeur violoniste, altiste, que je ne connaissais pas, qui est morave, qui s'appelle Heinrich Wilhelm Ernst, et donc avec une transposition au violon seul, ahurissante. On a l'impression qu'il faut 10 doigts à la main gauche au violoniste pour pouvoir tout jouer. Et donc là, il a joué ça non seulement avec panache, mais avec l'émotion qu'il y a dans ce Lied quand même.
C'est un musicien, c'est démonstratif, Frank-Peter Zimmermann.
Exactement, exactement. Très très bien. Et puis pour un peu calmer le tout, il a terminé avec la sarabande de la première partita en si mineur de Bach. Donc là, c'était la paix retrouvée. Et puis, en seconde partie, là, on a vraiment, pour la plupart des présents, j'imagine, on découvrait une œuvre rare, puisqu'il s'agit de la transcription pour grand orchestre symphonique, vraiment grand orchestre, hein, très nombreux, effectué en 1937 par Arnold Schoenberg, du quatuor pour piano et cordes numéro 1 de Brahms. Alors, une œuvre de musique de chambre transposée pour grand orchestre symphonique, et ça fonctionne tellement bien qu'elle a, à l'époque, été appelée la 5e symphonie de Brahms. Hein. Donc, vraiment, un passage vraiment intéressant, en ce sens que Schoenberg s'est effacé devant le style musical de Brahms. C'est vraiment du Brahms qu'on entendait.
Oui, alors il y a des gens que le fait que ce soit Schoenberg qui est transcrit pour l'orchestre cette œuvre de Brahms, il y a des gens que ça a fait fuir.
Qui était inquiet,
Il y en a même qui sont partis à l'entraque, je ne vais pas donner de nom. Hein.
Ah oui.
Par peur, semble-t-il. Ils ont eu tort, parce que franchement, vraiment dans l'esprit de Brahms, il n'y a pas de.
C'est dans l'esprit de Brahms. À peine Schoenberg a-t-il agrémenté un peu son orchestration d'instruments parfois un peu exotiques, comme le xylophone, le tambourin, le glockenspiel qui interviennent. Mais vraiment, c'était une belle œuvre. Alors, moi, j'ai noté aussi un passage dans le dernier mouvement. Un passage comme une sorte de clin d'œil de Schoenberg, un passage de musique de chambre où les seuls qui jouent sont les trois cordes de l'œuvre originale, violon, alto et violoncelle. Il y a un petit passage qu'ils jouent tous les trois. C'était l'original qui était de retour en quelque sorte, sans le piano que Schoenberg accusait parfois à l'époque de couvrir les cordes dans les exécutions de la partition originale. Et donc, Frank Berman qui a dirigé ça avec une énergie et un enthousiasme admirable. Le public a réservé une belle ovation, le public au chef et les musiciens également, une ovation au chef qui apparemment...
Ah ben, je peux vous dire qu'ils l'aiment beaucoup, ça c'est sûr. Et ils aiment beaucoup l'homme aussi, hein,
semble-t-il,
extrêmement agréable, très facile à vivre, ce qui n'est pas le cas de tous les chefs d'orchestre.
Non, exactement. Donc c'était vraiment un accord parfait.
Pour vous donner une idée de la virtuosité de Frank-Peter Zimmermann, je vous propose de réécouter le grand violoniste allemand dans l'un des bis qu'il a donné vendredi à la Halle aux Grains. C'est la Sarabande de la Partita numéro 1 BWV 1002 de Jean-Sébastien Bach. Et oui, il est impressionnant, Frank-Peter Zimmermann, dans cet extrait de la Sarabande de la Partita numéro 1, BWV 1002 de Jean-Sébastien Bach. Notez que le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole a lieu vendredi 26 avril, ce vendredi donc, à la Halle aux Grains. Il vous sera présenté en seconde partie d'émission. Retour sur un récital maintenant, celui que Fazil Say a donné lundi 22 avril, également à la Halle aux Grains. C'était un concert du cycle Les Grands Interprètes, dont il est un invité assez régulier. Serge va pouvoir nous faire part de ses impressions et nous rappeler le programme que le pianiste et compositeur turc a joué lundi à la Halle.
Alors, Fazil Say ou Fazil Say, je ne sais pas.
Ah, moi, exactement. Je reste à Fazil Say. Bon.
Oui, oui, restons là. C'est vraiment un personnage hors norme. Et là, le concert, c'était un spectacle. C'était un grand show qu'il nous a donné, parce que non seulement il joue évidemment avec beaucoup de virtuosité du piano, mais en plus, il commente la musique par le geste. Il accompagne son jeu, quelquefois d'une espèce de chorégraphie corporelle impressionnante.
Sans parler de ses mimiques.
Ah oui, oui, oui. Mais les mimiques un peu loin, on les voit un peu moins.
Oui, mais quand on le voit sur des vidéos, on voit...
Oui, d'accord. Mais là, les grands gestes, ça se remarque de loin.
Il a un petit côté acteur burlesque, je trouve, parfois.
Oui, oui, oui. Puis il ponctue les accords. Oui. Quand sa main n'est pas sur le clavier, elle est en l'air. Hein. Elle vaque à d'autres occupations de commentaires. Alors, le programme, il y avait donc en première partie, une sorte en miroir de discussion entre Claude Debussy et Fazil Say lui-même. Donc il y avait des œuvres d'abord de Claude Debussy avec 5 extraits du livre 1 des préludes. Donc. Et là, il a joué ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'il a joué ses préludes comme s'il les improvisait au moment. Mais ça va très bien avec la musique de Debussy. Alors il y avait tout d'abord les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, joués avec beaucoup de fluidité. Puis la fille aux cheveux de lin, lumineux, très beau, très bien fait. La cathédrale engloutie, alors là, avec un crescendo, un décrescendo et un nouveau crescendo, totalement impressionnant. Hein. Puis la danse de Puck, alors là, c'était d'une liberté totale, une fantaisie exactement. Et ça s'achevait avec Minstrel, alors là, un peu trop martelé à mon avis, éclaté un peu, mais vraiment impressionnant. Et puis, il a joué en plus, toujours de Debussy, extrait de la suite bergamasque, le fameux Clair de lune, qu'il a joué avec beaucoup de poésie, beaucoup de finesse, et ça a eu là aussi beaucoup de succès. Alors ça, c'était la première partie de la première partie. Et cette deuxième partie, c'était des œuvres donc, du compositeur lui-même, avec 3 œuvres, avec des titres en turc, alors vous m'excuserez. Le premier s'appelait Kara Toprak, il traduit par Black Earth, en anglais d'ailleurs, donc Terre Noire, pour piano tout seul, c'est l'opus 8, avec immédiatement, mais ça c'est le cas pour les 3 œuvres qu'il a jouées, des couleurs vraiment orientalisantes, avec un style modal très très oriental, donc on reconnaît ça immédiatement. Et là, vraiment c'était très intéressant. Ensuite, il y a eu 2 ballades, Cess et Nazim, là aussi très oriental évidemment, avec des interventions du pianiste directement sur les cordes du piano, soit pour étouffer les sons, soit pour balayer les cordes comme s'il s'agissait d'une harpe. Donc c'était vraiment intéressant sur le plan sonore. Et puis la dernière et la troisième œuvre, c'était sa sonate pour piano, son opus 99, qui date de 2021, en 3 mouvements enchaînés. Alors là aussi, il joue beaucoup à l'intérieur du piano, et sur le clavier, bien sûr, avec surtout un final, mais alors totalement frénétique. Là, hein. C'était impressionnant à un point. Bon, ça a eu aussi beaucoup de succès. On pouvait imaginer que des œuvres quand même nouvelles, hein, pas très habituelles, eh bien, auraient pu déconcerter le public. Mais non, le public a beaucoup apprécié. Ça, c'était donc la première partie. Et la deuxième partie, elle était consacrée à Franz Schubert. Alors, peut-être un compositeur qui ne le joue pas très souvent. D'ailleurs, c'est le seul moment où il avait la partition. Le reste du temps, il n'avait pas sa partition. Et donc là, moi, j'ai eu l'impression... Alors, c'était joué de manière très sincère, très...
C'était la dernière sonate.
Très engagée, Schubert. Oui, la dernière sonate.
La 23e, la fameuse 960.
La fameuse si bémol majeur, qui est une merveille absolue, évidemment. Oui. Et là, j'ai eu l'impression qu'il avait recomposé cette sonate avec son style. Donc un style éclaté, avec notamment le mouvement final pris dans un tempo assez rapide, mais qui fluctue beaucoup d'une mesure à l'autre. Ça, c'était un peu morcelé, en quelque sorte. Par contre, dans l'Andante Sostenuto, là, l'émotion était présente, vraiment très intense. Puis le scherzo avec son trio et surtout l'allegro non troppo était alors habité de contrastes brillants, certes, mais peut-être un peu excessifs pour ce dernier mouvement de cette sonate quand même ultime hein, de Schubert. Donc évidemment très original, c'est vraiment un grand virtuose, hein, il faut le redire, et qui a eu beaucoup de succès, même pour cette symphonie de Schubert, et donc il a donné deux bis, avec tout d'abord la première gnossienne de Satie,
ah oui,
qu'il a joué avec beaucoup d'esprit, et puis ensuite, alors, je soupçonne qu'il s'agit d'un de ses arrangements jazzistiques du Summertime de George Gershwin. Voilà.
Fazilsay adore le jazz, il l'a toujours dit, d'ailleurs ça sent dans ses compositions.
Absolument, absolument. Donc il a terminé ce concert avec ce Summertime jazzistique, en quelque sorte, une fantaisie.
Alors, comme Fazilsay est un fervent admirateur de Claude Debussy et que vous avez beaucoup apprécié cette partie de son concert, je vous propose de l'écouter dans une interprétation de l'une des pièces du livre 1 des préludes du grand compositeur impressionniste, La cathédrale engloutie. La cathédrale engloutie, pièce fameuse du livre 1 des préludes de Claude Debussy, jouée par Fazilsay. Prochain concert des grands interprètes lundi 13 mai à 20h à la Lograin avec un autre pianiste, le quasi légendaire Grigori Sokolov. Là, on va changer complètement de registre pianistique. Fin de cette première partie d'émission, une petite virgule musicale avant de retrouver Serge Ozy et William Maurer, notre invité d'honneur, pour la rubrique Agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Ozy et donc avec notre invité d'honneur, le compositeur William Maurer, que nous recevons pour la première fois dans cette émission et pour le concert qu'il donne à la tête de la formation qu'il a fondée, l'ensemble William Maurer, samedi 27 avril à 20h à l'église Saint-Pierre des Chartres de Toulouse. Et comme c'est votre première participation à Mélomanie, William Maurer, Je propose qu'on fasse d'abord mieux connaissance avec vous, d'autant plus que vous avez un parcours à la fois riche et varié. Le mot atypique, on l'emploie souvent un peu à tort et à travers, vous va complètement. Alors vous êtes originaire de La Réunion, mais vous avez fait vos études musicales à Toulouse, essentiellement au conservatoire à rayonnement régional. Et puis en plus, vous êtes professeur agrégé de musique, mais aussi de lettres modernes. Alors déjà, tout ça, c'est pas commun. Expliquez-nous un peu la musique d'abord. Apparemment, vous avez commencé sur le tard. Mais vraiment sur le tard.
Alors oui, effectivement, j'ai commencé sur le tard parce que quand j'étais au collège, je me destinais à devenir un biogénéticien. Donc autant vous dire que j'étais assez loin du compte. Et il se trouve que lors d'un cours de musique, justement, mon professeur, je me souviens, j'étais en 5e, et il nous avait fait écouter un extrait du canon de Pachelbel. Et à ce moment-là, il y avait une sorte d'interlude avec un instrument très étrange, en même temps magnifique, que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, je me souviens avoir dévalisé la médiathèque de ma ville natale pour en écouter. Et c'est là que j'ai découvert le clavecin, notamment avec les œuvres de Vivaldi, François Couperin et Bach. C'est par ce truchement-là que j'ai pris goût à la musique, surtout la musique savante. Et j'ai commencé en autodidacte, donc j'ai appris le solfège dans les livres principalement, ainsi que le clavier. Et j'ai commencé à prendre mes premiers cours de piano à 18 ans. Mais je me destinais déjà au clavecin et c'est en arrivant à Toulouse que j'ai pris des cours privés de clavecin et qu'ensuite j'ai intégré le conservatoire de Toulouse.
Oui, parce que vous arrivez à Toulouse pour entrer en Cagne, au lycée Pierre de Fermat, et vous êtes aujourd'hui donc agrégé de lettres modernes. On va revenir sur cette partie de votre activité, parce que vous écrivez aussi. Hein. Et donc, au conservatoire à rayonnement régional, à 19 ans, vous allez être un véritable boulimique, parce que j'ai vu, vous avez fait du chant grégorien, du clavecin, de la basse continue, du contrepoint ancien, d'écriture, de la composition instrumentale et vocale, de l'analyse musicale, l'histoire de la musique. Il y avait du temps à rattraper, c'est ça ?
Alors, il y avait du temps à rattraper, certes, mais aussi, c'est parce que j'avais vraiment une soif de culture musicale. Je voulais parfaire mes connaissances, aussi bien théoriques que pratiques. Et j'avais beaucoup de mal à restreindre mes envies d'aller voir ce qui se passait dans les autres classes. Et je pense que c'est en me laissant aller en quelque sorte à cette avidité que je me suis retrouvé au final avec un parcours tel que celui-là.
La composition, ça a été une envie, une volonté, très tôt aussi pour vous, c'est venu plus avec le temps?
Alors j'ai envie de dire c'est un peu des deux, parce que je me souviens que j'ai commencé mes premières esquisses alors que je venais de commencer le solfège, et c'est petit à petit, en me rendant compte que j'aimais bien écrire de petites choses, que je me suis dit pourquoi pas, et c'est à ce moment-là que j'ai intégré les classes d'écriture et de composition. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais une appétence plus prononcée pour l'écriture musicale et la partie érudition que pour la pratique instrumentale en elle-même.
Et aussi une certaine dilection pour la musique sacrée, si j'ai bien compris.
Oui.
Baroque et sacrée.
Oui.
Alors pas seulement baroque.
Pas seulement baroque, même si ma dilection pour les musiques savantes sacrées plus tardives est arrivée plus tard, dans mon cursus, mais aussi dans ma sensibilité. Mais effectivement, même si j'ai commencé donc à m'intéresser à la musique par le truchement des musiques principalement instrumentales, mon goût pour la musique sacrée est arrivé très vite, parce que c'est à travers celle-ci que je me suis rendu compte, en tout cas c'est mon avis personnel, qu'il y avait dans ces œuvres-là quelque chose, d'aucuns diraient un je ne sais quoi, d'autres diraient un sublime, que je ne retrouvais pas dans les autres productions des mêmes compositeurs. J'ai beaucoup écouté par exemple l'œuvre pour clavecin de Bach, les sonates pour piano de Mozart, mais il y avait quelque chose que je ne retrouvais pas et que je retrouvais par exemple dans la messe en si mineur ou dans la messe pour le couronnement par exemple. Et c'est par cet intermédiaire-là que je me suis pris à composer principalement et à écouter principalement de la musique sacrée.
Et ça va jusqu'à Messiaen pour vous, hein, jusqu'à Olivier Messiaen.
Oui, en partie.
Et puis il y a évidemment Jean-Sébastien Bach au milieu de tout ça, de façon tout gravite autour de Bach dans la musique. Alors vous êtes aussi, quand même qu'on en parle un petit peu, auteur, écrivain, parce que votre ensemble William Maurer n'est pas seulement destiné, semble-t-il, à faire de la musique, en tout cas à faire des concerts. Vous avez aussi la volonté de faire du théâtre. Avec la même association, évidemment pas avec vos musiciens, avec d'autres comédiens.
Oui.
Ça va s'incarner bientôt sur scène aussi, cette partie théâtrale ?
Alors oui, c'est prévu. Normalement, fin 2024, il y aura donc la création d'une de mes pièces de théâtre qui s'intitule Le Monde du Gigi et qui est principalement à destination des enfants. Et j'ai tenu à ce qu'il y ait donc un volet théâtral, parce que j'ai commencé aussi le théâtre au Conservatoire de La Réunion avant de venir ici. Théâtre que j'ai repris il y a quelques années en intégrant donc une troupe de théâtre classique à Toulouse, la Comédie d'Épidaure. Et je me suis rendu compte qu'à l'instar de la musique, il y avait un pan du répertoire théâtral, qu'il soit antique ou moderne, français ou étranger, que l'on ne représentait plus. Ce que j'ai trouvé fort regrettable, de très grands chefs-d'œuvre, d'ici et d'ailleurs, du passé ou du présent, qui ne sont plus sur scène. Et donc j'ai eu cette volonté, à la fois pédagogique et érudite, de faire revivre et de réactualiser donc ces chefs-d'œuvre du passé qui ne sont plus montés de nos jours. Et aussi de proposer mes propres créations théâtrales, puisque lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire principalement du théâtre. Et c'est ensuite que je me suis mis à la poésie, à l'essai et au roman.
Et vous venez d'ailleurs de publier votre premier livre, c'est un recueil de poésie et d'essais que vous avez intitulé « Les Telluriques », qui est à paraître en fait.
Qui
n'est pas encore paru.
Oui.
Donc c'est aux éditions Le Lys Bleu à Paris. Bon, on va parler maintenant de cet ensemble William Maurer. Donc vous avez fondé tout récemment, c'est octobre 2023. Pourquoi vous avez souhaité aussi créer votre propre formation ? Est-ce que c'était avant tout pour pouvoir jouer votre musique, vos compositions en concert ?
Alors oui, d'une certaine façon, mais c'était aussi, à l'instar du théâtre, pour faire revivre des œuvres de la musique savante qui ont peut-être eu leur heure de gloire, mais qui sont malheureusement un peu tombées dans l'oubli, un peu en désuétude, puisque effectivement, le critère économique est plus important, et puisqu'il faut avoir du public, j'ai l'impression, qui m'est tout à fait personnel, que le champ de proposition des œuvres, qu'elles soient musicales et théâtrales, c'est quand même amoindri, privilégiant donc des œuvres dont on sait qu'elles sont largement connues et qu'elles vont donc avoir un public certain. J'ai créé cette association à la fois musicale et théâtrale en me disant qu'elle aurait pour mission, aussi modeste soit-elle, de faire revivre des œuvres, à la fois musicales et théâtrales, qui n'eussent pas pu être créées autrement. Donc voilà l'objet. Et donc, parmi ces œuvres peu connues ou inconnues, je propose au public de connaître mes compositions, ainsi que mes pièces de théâtre. Et j'ai aussi voulu créer cet ensemble afin de faire jouer mes compositions, dans la mesure où j'ai eu quelques points de débat avec quelques collègues compositeurs qui sont un peu plus imprégnés que moi dans la composition contemporaine. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a en composition, en tout cas de nos jours, cet impératif qui consiste à rechercher l'innovation, que l'on voit dans d'autres arts, notamment dans l'art contemporain, etc. Et si je suis d'accord sur le fait qu'il faille innover et faire preuve d'originalité, ce n'est pas pour moi la valeur première. C'est-à-dire que je reste attaché quand même à une tradition assez ancienne qui relie les arts, et notamment l'art musical, à une certaine élévation de l'âme, à une élévation de l'esprit, à une recherche du beau, sous quelque forme qu'il soit. Et je suis aussi attaché à une certaine rhétorique de l'art du discours musical. Donc, vous comprenez bien que ce parti pris n'est pas celui qui est le plus à la mode de nos jours.
J'allais dire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus mainstream, pour reprendre une expression à la mode aujourd'hui, quel que soit d'ailleurs le milieu artistique.
Je voulais aussi profiter donc de la liberté artistique que nous offre quand même cette époque postmoderne pour proposer au public des spectacles un peu plus éclectiques où l'on pourrait mélanger donc les genres, les styles et les différents langages, qu'ils soient modaux, tonaux ou atonaux, ce que je propose par l'exploration de mes propres compositions.
Ah, ça, on va en parler évidemment lorsqu'on va aborder le programme du concert que vous allez donner samedi prochain. On va parler de vos musiciens, parce que évidemment vous vous êtes entouré de musiciens pour fonder l'ensemble William Maurer. Apparemment, ce sont essentiellement d'anciens camarades du CRR de Toulouse.
Alors, ce sont essentiellement des étudiants du Conservatoire de Toulouse, soit d'anciennes connaissances ou donc des étudiants qui y sont encore, que j'ai rencontrés récemment et qui ont été attirés par mon projet. Donc, des étudiants à la fois chanteurs solistes, choristes et instrumentistes. Mais l'ensemble est aussi constitué de professionnels intermittents du spectacle.
Et de grands amateurs aussi.
De grands amateurs, de semi-professionnels. Et chaque personne, avec son parcours, peut enrichir le projet avec sa propre expérience et sa propre sensibilité.
Ensemble à géométrie variable, où il y a quand même un noyau dur de, je sais pas, 10, 12, 15 musiciens.
Il y a quand même un noyau dur, constitué principalement de quelques musiciens, notamment dans les cordes, constitué des choristes et des chanteurs, mais globalement, l'ensemble reste à géométrie variable. Nous sommes quand même constitués en tout de 30 personnes, donc 8 chanteurs, solistes et choristes, ainsi que, on va dire, une vingtaine de musiciens.
Nous allons nous intéresser au programme de votre concert du samedi 27 avril à l'église Saint-Pierre des Chartreux dans quelques instants. Mais pour se mettre dans l'ambiance, nous allons d'abord écouter l'une de vos compositions. C'est un Agnus Dei chanté par le ténor Timothée Bougon, accompagné bien sûr par l'ensemble William Maurer. L'Agnus Dei, composé par William Maurer et chanté donc par les choristes de son ensemble et le ténor Timothée Bougon. On en vient à ce concert du samedi 27 avril à 20h à l'église Saint-Pierre des Chartreux de Toulouse. Quel programme allez-vous proposer au public ce soir-là et avec quel musicien, quel chanteur? Dites-nous tout. Alors le programme est sous-titré, c'est assez intriguant, hein, Les temps contraires. Pourquoi?
Alors, les temps contraires, les temps sous-entendus les époques contraires, et je pense qu'il faudrait sous-entendre les époques a priori contraires. Parce que c'est vrai que le chant grégorien et les ondes Martenot, on ne s'y attendrait pas. Ce n'est pas si évident que cela. Il y a un éloignement déjà temporel certain, de presque 900 ans.
Oui,
je pense.
Mais c'est une belle confrontation,
vraiment. 9 petits siècles.
Oui. A priori, hein. Ah, oui.
Peut-être rappeler ce que sont les ondes Martenon, je ne suis pas certain que tout le monde sache exactement ce que c'est.
Alors
cet
effectivement,
instrument.
C'est un instrument rare, qui est peut-être encore moins connu que le clavecin. Donc c'est un des premiers instruments électroniques inventés par Maurice Martenot, qu'il a présenté à Paris en 1928. Donc c'est un instrument électronique qui fonctionne par ondes. La particularité de cet instrument... C'est que, on l'on dit souvent de cet instrument, qu'il ressemble un peu à la voix humaine, dans cet aspect très aérien, très éthéré, un son un peu similaire à celui de son cousin russe, le thérémine, qui est apparu un peu plus tôt. Cet instrument, donc, que l'on voit apparaître à cette époque-là, connaît assez rapidement un répertoire, et non pas des moindres, puisque Milo, Messiaen lui ont consacré des œuvres extraordinaires, André Jolivet lui a consacré un magnifique concerto, etc. Cet instrument, donc, est constitué de haut-parleurs, mais aussi d'un clavier, qui est similaire à celui du piano, mais avec une étendue beaucoup plus réduite. Peut se jouer de deux façons différentes. On peut appuyer sur les touches, à l'instar d'un pianiste, mais on peut aussi, donc, en mettant l'index dans la bague, donc bouger la bague latéralement, de droite à gauche, de gauche à droite, et donc à ce moment-là, on change les notes également. Cet instrument est tombé en désuétude à partir des années 80, puisque très vite, les avancées technologiques et surtout l'apparition du numérique ont fait que cet instrument a perdu un peu de son aura. Et aussi, la fabrication s'est interrompue aux alentours de 1988. Alors, des tentatives ont été faites pour remettre cet instrument au goût du jour avec une nouvelle facture, je pense par exemple à l'Ondea. Et cet instrument a aussi souffert du fait que l'on puisse reproduire donc ces sons avec un matériel beaucoup moins encombrant, beaucoup moins coûteux, en faisant quelques manipulations sur le clavier. Alors, je comprends tout à fait, mais on perd quand même le charme d'avoir un véritable instrument et un instrumentiste qui joue sur scène pour le public. Donc, je voulais remettre cela au goût du jour. Et l'on ne s'y attendrait pas, mais cet instrument se trouve dans des répertoires assez variés. Il a été utilisé notamment par Radiohead ou par Innumericon, par exemple. On ne s'y attendrait pas. Mais en général, le public pense qu'il s'agit d'une voix humaine, en général d'une voix féminine, et ne pense pas qu'il s'agit des ondes Martenot. Donc il s'agit aussi de faire découvrir cet instrument assez rare et au son que je trouve particulièrement magnifique.
Alors donc le programme du concert, on va entendre que vos œuvres ou est-ce qu'il y aura d'autres œuvres qui viendront se mettre en miroir, en regard de vos compositions?
Oui, il y aura le premier numéro du Gloria de Vivaldi, donc au début du concert, et à la toute fin du concert, il y aura une pièce de Messiaen pour piano et ondes Martenot. Donc déjà, de part et d'autre du concert, on voit quand même deux traits radicalement différents. Et au milieu, pour rafraîchir un peu les oreilles du public par rapport à toute cette musique sacrée, je propose un petit moment un peu plus léger avec la méditation de Thaïs de Massenet.
En effet.
Et donc, entre ces trois œuvres du répertoire, je propose mes compositions qui se caractérise donc par cet éclectisme et ce voyage à travers différentes époques et différents langages.
Les musiciens qui seront à vos côtés ce jour-là?
Alors, il y aura Mathieu Pointeau, donc, qui est au Conservatoire de Toulouse et qui dirigera mes œuvres. Il y aura aussi donc, Timothée Bougon en tant que ténor soliste, Katharina Mangan, la soprano soliste également au Conservatoire. Il y aura aussi donc l'orchestre, principalement aussi des étudiants du conservatoire, ainsi que 8 choristes.
Sachant que ce concert est aussi organisé en soutien de l'association Action contre la faim.
Oui, ce concert est organisé aussi en partenariat et en soutien d'Action contre la faim, parce que c'est une association déjà dans laquelle je suis bénévole, et aussi parce que j'ai à cœur de lier les événements culturels à des causes plus nobles, notamment celle-ci, puisque je considère que la musique ne perd en rien de son prestige ou de sa noblesse en servant des causes plus nobles qu'elle-même. Et je pense même que si je n'avais pas pour élément moteur ces causes essentielles, je n'aurais pas le courage que j'ai eu à passer autant d'heures à composer ma musique.
Alors on va écouter encore une autre de vos compositions, William Maurer. Elle a pour titre « Regarde-moi ». Est-ce qu'elle est au programme du concert samedi?
Non.
Elle n'est pas au programme. Voilà, ce sera une vision supplémentaire de votre œuvre en construction aujourd'hui. On écoute tout de suite donc « Regarde-moi ».
Connaissance. Regarde-moi.
Regarde-moi, chanté de nouveau par Timothée Bougon, une composition de William Maurer, interprétée aussi par les musiciens d'ensemble. William Maurer qui est donc en concert samedi prochain, le 27 avril à 20h à l'église Saint-Pierre des Chartreux de Toulouse, avec ce programme intitulé Les temps contraires. Je rappelle que ce concert est donné en soutien de l'association Action contre la faim. Serge, il y a un autre concert la veille à la Halle au Grain, où l'Orchestre National du Capitole se produit vendredi 26 avril à 20h sous la direction de Pascal Roffet et avec un invité de Marc, le oui. Grand clarinettiste suédois Martin Fröst. Voilà encore un concert qui sort de l'ordinaire.
Ah oui, tout à fait, avec une succession d'œuvres très variées, avec deux œuvres de Stravinsky, le Chant du Rossignol, qui est un poème symphonique, et le Scherzo Fantastique, deux œuvres pétillantes, et puis de Paul Dukas, l'apprenti sorcier, c'est évidemment l'élément qui va attirer tous les publics.
C'est
là.
Le sous-titre du concert d'ailleurs, l'apprenti sorcier.
Exactement, voilà. L'apprenti sorcier. Et puis il y a deux œuvres, avec comme soliste Martin Fröst, d'une part la première rhapsodie pour clarinette et orchestre de Claude Debussy, et d'autre part une création qui s'appelle Passage et qui est de Jarrell, donc
Michael Jarrell,
Michael
Jarrell, britannique.
Oui, oui, un grand compositeur actuel, donc, et il s'agira d'une commande, d'une création, qui est une co-commande, en quelque sorte, de l'Orchestre de la Suisse romande, de l'Orchestre symphonique de Tokyo, l'Orchestre symphonique de l'État de São Paulo et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Donc, vous voyez.
Ce sera la création française, parce que l'œuvre a déjà été créée mondialement, sans doute en Angleterre d'ailleurs. Voilà, Martin Fröst, bon, référence mondiale de la clarinette, également compositeur. Et puis donc, on aura Pascal Roffet à la direction.
Pascal Roffet, oui, qui est un chef maintenant français bien connu, qui est le directeur musical de l'orchestre de la radio croate.
Eh oui, voilà qui n'est pas commun non plus. Non, donc, qui a travaillé assez longtemps avec Pierre Boulez, un ensemble intercontemporain.
Exactement.
Voilà, grand chef français. Alors donc, ce programme a été sous-titré L'apprenti sorcier. Alors nous allons écouter l'œuvre qui lui donne son nom. Voici L'apprenti sorcier de Paul Dukas dans une version enregistrée par l'Orchestre national du Capitole en 1996 sous la direction de Michel Plasson. Thank you. Le fameux apprenti sorcier de Paul Dukas dans la version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole en 1996 sous la direction de Michel Plasson, une œuvre au programme du concert que donne l'ensemble symphonique toulousain vendredi 26 avril à 20h à la Halle aux Grains. Et Serge, il y a encore un concert de l'Orchestre National du Capitole le vendredi suivant, le 3 mai, toujours à la Halle aux Grains. Il est d'autant plus attendu que c'est un certain Tarmo Peltokoski qui le dirige.
Mais oui, le tout nouveau directeur musical de l'Orchestre National du Capitole, qui a été nommé, je vous le signale, le 20 décembre 2022 par le maire de Toulouse, alors qu'il n'avait que 22 ans. Donc nous le recevons cette fois et il revient avec la soprano israélienne Chen Rice pour un programme, vraiment un programme de dernières œuvres, on peut dire, des compositeurs, puisqu'il s'agira des quatre derniers lieds de Richard Strauss et de la symphonie numéro 9 de Bruckner, une symphonie que Bruckner n'a pas achevée d'ailleurs. Et donc, ce sera intéressant. Alors, je ne sais pas encore quelle est la version de cette symphonie qui sera jouée, puisqu'il n'a achevé que trois mouvements, mais le final a été... Il y avait des esquisses qu'il avait laissées, et donc certains compositeurs, même musicologues, ont aménagé ces esquisses pour en faire un final de substitution en quelque sorte. Et alors, il faut préciser que ce concert est organisé dans le cadre des 700 ans des Jeux Floraux de Toulouse, l'Académie des Jeux Floraux, et qu'il est envisagé d'assister à des lectures de poèmes par les poètes Hélène Dorion et Max-Alexandre Orobambe, qui donc se mêleront au programme musical. Voilà pour ce concert assez particulier.
Oui, et ce qu'on peut indiquer aussi, c'est que la veille, le 2 mai, aura lieu la présentation de presse de la saison 24-25 de l'Orchestre National du Capitole, voilà, en présence de Tarmo Peltokoski.
Et bien entendu, puisque là, il va être de plus en plus impliqué.
On va changer de registre là, hein. On va quitter la musique symphonique, puisque deux jours plus tard, le dimanche 5 mai à 17h, à la chapelle des Carmélites, Toulouse Guitare accueille le luthiste Thomas Dunford pour son dernier concert de la saison, un musicien qu'on commence à bien connaître à Toulouse, Serge, et puis c'est une des stars de la jeune scène baroque française. Il va nous proposer un programme assez typique de son instrument avec des compositeurs de la période baroque, mais pas seulement, il y a une sorte d'intrus.
Oui, oui. Alors, il y a certes du John Dowland, du Marin Marais, du Jean-Sébastien Bach, mais il y a également du Eri Satie. Et donc, nous écouterons en particulier la première des Gymnopédies et la première des Gnossiennes parmi ces œuvres.
Voilà l'intrus.
Oui, oui. Il y a pas mal d'œuvres de John Dowland aussi, hein, notamment la Mélancolie gaillarde, qui est une œuvre magnifique. Hein. Donc, on est très heureux de recevoir Thomas Dunford. Ce sera le dernier concert de la saison Toulouse Guitare.
Thomas Dunford, fils du gambiste Jonathan Dunford, il joue aussi du théorbe, Thomas. Il est ami avec Thibaut Garcia, c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a la chance de l'avoir à Toulouse. Et puis, il a fondé l'ensemble Jupiter avec sa compagne Léa Descendré. Il joue beaucoup avec les arts florissants. Voilà, c'est un peu le luthiste attitré de William Christie. Et on aura une première partie, comme d'habitude, hein, avec une jeune guitariste cette fois-ci.
Une jeune guitariste qui s'appelle Dorine Guilbeault et qui jouera du François de Fossa, que je ne connaissais pas, et de Mario Castelnuovo Tedesco, qu'on entend plus souvent, avec notamment les Capriccios de Goya.
Thomas Dunford est un musicien très doué, un vrai virtuose du luth, et vous allez avoir un petit aperçu de son talent en l'écoutant dans une interprétation de la 6e toccata du compositeur vénitien, même si son nom ne l'indique pas, Johannes Hieronymus Capsberger. La sixième toccata de Johannes Hieronymus Kapsberger, jouée par Thomas Dunford, qui donne donc le dernier concert de la saison Toulouse Guitare, dimanche 5 mai à 17h à la chapelle des Carmélites. Et le lendemain, lundi 6 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines, ce sont les Clés de Saint-Pierre qui vont clore leur saison avec un concert dont le programme a été sous-titré « Romances et secrets ». Quels sont les musiciens que l'on va y entendre, Serge? Et quelles œuvres, quels compositeurs vont-ils nous jouer à partir de 20h?
Bon, ils sont trois musiciens. Il y aura la violoniste super soliste de l'Orchestre National du Capitole, Jaewon Kim. Et puis, il y aura également Jacques Deleplanc, récemment retraité
mais toujours actif.
De l'orchestre, mais toujours actif, évidemment. Lui, alors, un super corniste, on peut dire, qu'il a été pendant très longtemps au sein de ce même orchestre. Et ces deux musiciens seront rejoints par un jeune pianiste japonais, Kishin Nagai. Et ces trois musiciens joueront d'abord deux œuvres pour violon et piano de Clara Schumann. Ce seront les trois romances opus 22 de Clara Schumann, puis la sonate pour violon et piano numéro 1 en sol majeur de Brahms. On connaît les liens entre Brahms et Clara Schumann. Et puis, pour terminer, le trio pour violon, cor et piano en mi bémol majeur de Brahms, également par ces trois musiciens.
Voilà, et donc ce dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre a lieu le lundi 6 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne pour cette belle soirée à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Pour le concert du luthiste Thomas Dunford dimanche 5 mai à 17h à la chapelle des Carmélites, dernier rendez-vous de la saison Toulouse Guitare, la billetterie est en ligne à l'adresse www.toulouseguitare.fr. D'autre part, pour le concert de l'Orchestre National du Capitole le 26 avril, dirigé par Pascal Roffet et avec le clarinettiste Martin Fröst, et pour celui du 3 mai, dirigé par Tarmo Peltokoski, les places sont à réserver et acheter sur le site www.onct.toulouse.fr. Ces deux soirées commencent à 20h à la Halle aux Grains. Je rappelle aussi le concert du duo Marie Cantagril et Lois Urbain, vendredi 26 avril à 20h à la salle L'Odyssée de Balma, où la violoniste et la pianiste jouent des œuvres de Beethoven, Vieux Temps et Sarrasate. Vous trouverez les renseignements nécessaires et les contacts pour faire vos réservations sur le site de Marie Cantagril, notre invitée de la semaine dernière, www.mariecantagril.fr. Et je rappelle enfin que notre invité du jour, William Maurer, est en concert avec l'ensemble qui porte son nom ce samedi 27 avril à 20h à l'église Saint-Pierre des Chartreux de Toulouse. Les réservations et l'achat des places peuvent se faire en ligne sur le site www.eloasso.com. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé ce numéro à mes côtés et à William Maurer d'en avoir été l'invité d'honneur. Merci aussi à Christophe Aubry qui a réalisé cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous qui nous écoutez fidèlement chaque mardi et mercredi. Très bonne semaine musicale à tous. À bientôt.